Oui, je vous disais, pour... Ah bah oui, marteau-piqueur. Alors, marteau-piqueur aussi, vous savez qui fait les poches. Hein. Marteau, c'est le marteau des drapeaux, du drapeau soviétique, hein, le marteau-piqueur, avec la faucille. Donc, oui, c'est comme ça. Il y a un petit peu de bruit pour rien, mais en fait, c'est du bruit. Déjà, vous savez, la société merdonne aussi, c'est de faire du bruit. Hein. Donc, l'essentiel, quand il y a du bruit, il y a déjà quelque chose. Hein. Alors, je vous disais que, malgré ces conditions difficiles, un petit peu il y a des choses possibles et pas possibles, hein, c'est comme ça. Mais je vais voir hein, si ça continue de trop. À ce moment-là, je vous mettrai de la musique, hein, c'est comme ça. Hein, la loi du marché, hein, vous voyez, même là, même à Radio Libertaire. Donc, on va voir ça. Alors, je vous parlais de ce mensuel, à nouveau, il va bientôt sortir. La décroissance, le journal de la joie de vivre. Donc, vous savez le thème, hein, je rappelle, puisque c'est partout, c'est croissance, ne vois-tu rien venir. Alors, on voit évidemment tous les politiciens hein, qui ont des remèdes pour qu'il y ait de plus en plus pour qu'il y ait de plus en plus de croissance. Et donc, ces politiciens, alors il y en a des bons, hein, vous savez, donc il y a eu le monsieur Hollande hein, qui en a fait un discours qui donnerait peut-être ou pas, enfin qui racontait comment s'y retrouver pour l'emploi si ça dépassait le 1,5 ou le 2%. Mais alors, bon, comme lui, il est totalement disqualifié, avant de vous en parler. On voyait l'éco bouffon, comme l'appelle la décroissance Mélenchon, hein, donc par rapport à Monsieur Mélenchon, Jean-Luc, l'évangile selon Jean-Luc, Jean-Luc, et donc l'éco bouffon, ils avaient fait un petit croquis, un petit dessin plutôt. Vous savez, le falsificateur, ce qu'il nous avait dit, penser, c'est faire le jeu des terroristes. Hein. Alors, ne pense plus, dépense, comme avait dit notre ami Yvan Dotin, vous savez, ne pense plus, dépense, sa chanson. Alors, donc, on peut lire, dans quelques relevés, quelques citations faites par la décroissance hein, sur les éco-bouffons, il y en a beaucoup, les bouffons comme disait François Béranger. Là aussi, voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire lui? C'est par ça que je commencerai. C'est ce que j'ai appelé l'économie de la mer, c'est-à-dire relancer toute l'économie du pays en relançant fortement un endroit. Donc, on relancerait par ce bout-là en y mettant des milliards. Et à partir de là, on remet en route toute l'économie du pays. On remplit les carnets de commandes, mais d'une manière responsable écologiquement. Alors, c'est ça, c'est le capitalisme écologique. Hein. À la sauce Mélenchon, il y a qu'à rajouter, enfin, vous savez, les trafiquants du langage. Hein, donc, écologie capitaliste, puisque, j'ai vu mon frère, hein, il en est pas loin, lui. Il a, dans un dernier ouvrage que j'ai vu, qu'il a commis, vous savez, peut-être Penser l'islam, où il y en a un autre, Le miroir aux alouettes, il évoque le capitalisme libertaire, hein. Là aussi, c'est quand même quelque chose, vous voyez qu'on a beaucoup de difficultés quand même dans ce pays, et donc on a des spécialistes. Et là, je voulais lire, donc, pour Jean-Luc Mélenchon, appel au peuple, hein, pour s'auto-désigner lui-même candidat à la présidentielle. Vous savez qui l'est, hein, surtout sur la énormément, hein, qui viennent Madame Lindemann aussi, vu ça dans le Canard enchaîné de mercredi, allez voir ça. Marie Noël, hein, la catholique, la catholique, c'est bien au PS, au Parti Socialiste ou d'autres partis politiques ou politiciens plutôt, vous pouvez appartenir à n'importe quelle boutique religieuse, ça ne pose pas de problème, tout ça va bien ensemble. Hein. Bon, on va parler des protestants évidemment, et des autres boutiques religieuses, enfin il y en a beaucoup. Écoutez les amis, J'ai un peu de mal, hein, quand même, à lire toutes ces conneries, mais enfin bon, je les lis quand même, hein, je suis pas forcé, mais je vous le lis. Écoutez, les amis, nous sommes français. Parce que lui, il serait, paraît-il, bon, ils ont fait des tas de sondages, enfin, les trafiquants aussi, des sondeurs, enfin, tous ces trucs que vous avez dans les médias, au Daxa, des machins comme ça, des boutiques, là aussi, c'est religieuse, des boutiques de sondage, avec tout le pognon que c'est, qu'il y a là-dedans, hein, donc, il aurait peut-être, face à un autre, enfin, on sait plus qui, 20% de possibilité d'être élu, parce qu'on est déjà, au mois de mai 2017, hein, vous le savez pas? Alors, nous avons inventé, alors voilà la mélanchonite, hein, le grave, nous avons inventé le nucléaire, hein. Patatras, en 10 ans, on en a mis partout. Il est content, lui, hein. Une autre, en 10 ans, on en a mis partout. Une autre fois, on a dit, on va faire des fusées. Nous voilà la deuxième puissance du monde pour l'argent qu'on met dans l'espace. Nous, les Français, on sait faire ça. Donc, il faut passer à la planification écologique, hein. Voilà. Alors, planification écologique avec Mélenchon. C'est Mélenchon, les torchons et les soviets, hein. Donc comme programme, hein, programme grave, politique, politicien, enfin bon, Mélenchon, les torchons et les serviettes. Et ce n'est qu'un extrait, nous dit La Décroissance, journal du mois de mars, je vous l'ai dit, et ce n'est qu'un extrait d'un délire mégalomaniaque que nous ne pouvons pas reproduire intégralement ici. Ben, on s'en doute, hein, par rapport à la place que ça prend. Alors, au fil de ce type de déclaration, alors là, je vous l'ai dit, en fait, tous ces tartuffes, éco-tartuffes, dont La Décroissance se fait une spécialité, hein, en particulier, allez voir, hein, bon, pour quelques éléments de description de ce qui peut se passer. Donc ce film, je vous l'ai dit, demain, l'annonciateur, enfin, de façon de s'en sortir, hein, chacun dans son coin, avec un peu de solaire, avec un peu de manger différemment, enfin bon, le travailler autrement. Et puis, quelques personnes comme ça, et, eh bien, ça sera formidable. Alors, je vous le rappelle, quand même, ce film, il y avait le Mélanie Laurent, hein, qui est une bobo actrice, comédienne, enfin bon, depuis plusieurs années, qui a découvert l'écologie en regardant autour d'elle, je sais pas, à partir de son gamin, les couches qu'elle est obligée d'acheter, on ne sait pas, mais tout en assurant, faisant ce boulot de femme sandwich chez Dior. Et puis son compagnon Cyril Dion, hein, c'est pas le frère de Céline, hein, que personne ne connaît, Céline. Non. Ouais, c'est ça qu'on a partout, hein, même pour la chanson, mais la plus grande chanteuse interplanétaire. Donc Cyril Dion, lui, il a un peu réalisé le film, et c'est le patron des Colibris, hein, Colibris aussi, donc haute association écologique. Alors, la personne qui signe l'article est bien Pierre Thiesset. Je vais vous lire quelques lignes. Donc justement, ce n'est pas. Alors, il évoque le fait de ce capitalisme de changer les choses. Ce n'est pas parce que je change ma vision du monde, quitte mon poste d'huissier pour devenir poète. C'est difficile, hein. Je sais pas si on en a vu beaucoup, mais enfin bon, contemplatif et bienveillant, que je transformerai la civilisation industrielle. Ce n'est pas parce que je jette mon téléphone portable que les antennes relais seront soudainement démontées. Que l'extraction de coltan, vous le savez, hein, qui rentre dans la composition des téléphones portables, s'arrêtera au Congo, hein, dans les meilleures conditions. Donc l'extraction, vous le savez, comment ça peut se passer avec les enfants, enfin les... Et que les usines de Foxconn, hein, ça porte bien FOXCO2N, hein, seront démantelées en Asie. Il ne suffit pas de se changer. Hein, pour changer le monde, on le voit bien. Hein, voilà, pour, je veux dire, souvent, on en parle de la manière de voir les choses complètement différemment, d'essayer de changer soi-même. C'est ce que je vous dis quelquefois sur cette antenne, faire sa propre subversion personnelle. Mais bon, quant autour de soi, vous savez, selon la fameuse définition, hein, la liberté des autres peut développer la mienne à l'infini. Mais aussi leur emprisonnement, hein, leur barreau, dans la tête, hein, donc peut aussi figer donc toutes ces personnes et faire que mes possibilités de me déplacer dans ce monde de zombies, dans ce monde de soumis, dans ce monde de robots, bah fait qu'à mon tour, ma liberté est quand même encadrée, hein, comme on dit, elle est limitée, elle s'arrête très très vite, hein, elle s'arrête au coin de la rue. Vous le savez, surtout là en ce moment, donc il y en a partout qui occupent la rue. Et c'est ce que aborde justement les limites de ce film et la critique que peut être faite par Pierre Thiessen, qui nous rappelle que le capitalisme est un fait social total qui modèle nos existences. Hein, le capitalisme est un fait social total qui modèle nos existences. Alors on est dedans, hein, tout sautage du capitalisme. Adopter une nouvelle éthique et monter quelques initiatives collectives, cela peut être méritoire et épanouissant, mais c'est insuffisant pour ébranler la société marchande. Notre puissance, la puissance d'agir est relative. Les modes de vie sont largement conditionnés par les modes de production. Le milieu est façonné par le système technicien et finalement, la conscience des hommes est beaucoup plus déterminée par les conditions matérielles d'existence que l'inverse, comme disait l'ami Karl Marx. Hein. Bon, alors on dit l'ami, vous voyez, et je vous le rappelle, ce qu'il disait, le système, et finalement, la conscience des hommes est beaucoup plus déterminée par les conditions matérielles d'existence que l'inverse. Ben, on le voit bien, l'homme est évidemment formaté hein, par ce qui se passe dans son époque, quand le gamin il arrive donc sur cette planète, son milieu, je vous en ai déjà parlé, sous son environnement, tout ce qu'il a autour de lui, déjà la langue, hein, sans rappeler que dans la décroissance, on nous rappelle les travaux de Monsieur Barthes, hein, Roland Barthes, qui rappelle que la langue est fasciste, c'est-à-dire qu'elle oblige, hein, les mots, le vocabulaire et tout ça, et puis évidemment, vous subissez la famille qui vous tombe sur le paletot, les conditions religieuses dans lesquelles vous allez naître, et puis ce que vous allez peut-être subir ou ne pas subir, et puis les systèmes d'éducation, les systèmes d'instruction, donc complètement détermine, et puis évidemment, je vous l'en parlais, toutes ces techniques, hein, les bagnoles, toutes les machineries, toutes les internets, toutes les téléphones, enfin tout ça qui à la fois peuvent libérer, mais vous le savez bien plus, asservir les êtres humains, un type même de société dans laquelle personne ne peut vraiment échapper et qui implique justement cette nécessité d'une transformation radicale du collectif, de l'ensemble, puisque changer un petit peu soi-même, comme les gens qui m'appelaient au téléphone ce matin ou des personnes m'appelaient au téléphone ou dire que l'on mange moins de viande ou que l'on est végétarien. C'est pas ça qui a empêché les conditions épouvantables donc dans cet abattoir dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les conditions d'extermination des animaux. C'est pas ça qui va faire bouger. Alors pour soi-même, évidemment, c'est peut-être un accord éthique, mais pour le reste, ne ferait-ce que la même chose, je vous l'ai déjà dit, pour les bagnoles à Paris, pour l'écologie, quand quelqu'un décide d'aller en vélo, ça laisse un peu plus de place pour une autre bagnole. Hein, c'est pas, ça diminue pas, ça, on ne retire pas une bagnole. Donc pris, évidemment, dans la nasse, indispensable que l'ensemble puisse changer. Alors évidemment, on en est très loin, puisque là, on se bagarre, je vous l'ai dit ce matin, sur la loi Belle Connerie. Hein, la loi Belle Connerie, là encore une fois, aménagement des conditions d'esclavage, hein, sans remettre fondamentalement en question l'ordre du monde et les changements absolument nécessaires, hein, puisque tous, la décroissance l'évoque, le capitalisme vert, évidemment, le développement durable, toutes ces conneries qui vous sont présentées par tous les communicants, type crapule absolue, genre Ségala ou Saucet, hein, tout ça qui sont des grands criminels, hein, donc par rapport à la com ou par rapport à la publicité qui dégueule absolument partout, hein, je vous l'ai dit, pour ça la publicité c'est la chiasse du capitalisme. Alors il termine Pierre Thiessen, camarade, La remise en cause du mode de production capitaliste, hein, il a raison de l'appeler camarade, ne se fera pas seulement par une conversion des esprits, mais aussi et surtout par un combat politique qui n'esquive pas les conflits, qui ne considère pas la société comme un parfait marché lisse, où chacun s'ajuste, hein, ouais, je m'ajuste, je m'adapte, et qui vise précisément à transformer les structures sociales. Là-dessus, et là c'est très important, je l'avais évoqué au début de cette émission, les luttes des classes du 19e siècle ont certainement, et la raison de mettre ça au pluriel, ont certainement plus de quoi nous inspirer que les séances de méditation New Age, quand les ouvriers, et c'est pour ça que je dis, on a entendu Estaca tout à l'heure, les ouvriers, les paysans, se soulevaient pour prendre le contrôle des outils de travail et soumettre la production aux besoins de la communauté. Cela avait tout de même une autre consistance, je dirais une autre gueule, que d'attendre que la conscience collective prenne conscience de son inconscience, hein, dans des séances de méditation. Et puis ça, il y a eu ça au moment de la fumeuse, fastueuse COP 21, évidemment, une autre escroquerie du Hollandais. Hein. Il n'y a que ça, c'est que des fiascos et que des escroqueries et que des flops et l'échec absolu, hein, les absolus, voilà. Donc la conscience collective prenne conscience de son inconscience, hein, donc vous pouvez aller faire du bouddhisme aussi, donc soyez zen, hein, là aussi c'est tout ça, c'est à développer, hein, vous savez, au travers de tout un tas de revues genre psychologie, changez-vous vous-même, hein, comme on dit, on peut à l'intérieur de la prison ou à l'intérieur de du camp de concentration. Eh bien, il suffit de voir le monde de façon heureuse et vous verrez, vous irez mieux. Alors, tout ça sont des arnaques, justement, des escroqueries. Enfin, bon, ils sont nombreux, hein, pour proposer. Donc, ce film-là sont des propositions, évidemment, qui vont bien avec la com, avec la publicité, avec le langage publicitaire, avec les illusions nécessaires, hein, de nous faire prendre des messies, comme dit Marc Havet, pour des lanternes, hein, et là aussi, eh bien, voilà ce que on pouvait dire sur ce film demain, New Age de l'économie libérale, et qui est bien représentatif de toute cette bande d'escrocs nuisibles qui occupent des postes au gouvernement, hein, que ce soit l'écologie, la biodiversité, et puis tous les supplétifs secrétaires qui avaient fait des déclarations il y a un an, qui n'accepteraient jamais un poste ministériel, et puis c'est trop beau, hein, et on sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, il fallait en passer par là. Et en passer par là, c'est ce qui nous est dit aussi par Alain Accardo. Je vous en ai déjà parlé il y a bien longtemps d'Alain Accardo, hein, sociologue, entre autres, qui avait commis un petit ouvrage difficile à trouver en France, mais qu'on pouvait trouver justement en Belgique. Le nouveau petit bourgeois gentilhomme est arrivé, et donc dedans, il revient, hein, évidemment sur le fait que les élections où à la fois ces candidats n'ont qu'une obsession, c'est d'avoir le pouvoir, hein, c'est de rester au pouvoir, c'est d'avoir le poste, et rien d'autre, ils sont prêts à tous les coups, entre eux, regardez, enfin, c'est évidemment, c'est d'une évidence aveuglante, tous les coups, pour se maintenir, donc, président, hein, que ce soit évidemment toute la bande du MP, toute la bande des républicains, toute la bande des autres extrêmes droites, enfin tout ça, ou la mélenchonite, enfin tout ça. Tous ces gens n'ont qu'une obsession, c'est d'avoir le poste, d'avoir le pouvoir, et après de s'y maintenir. Hein. Donc ils font tout, tous les coups sont permis pour y arriver, pour y accéder. C'est pour ça que bon, les militants, il n'y en a plus, quasiment pas dans toutes les partis politiques, hein, qu'on appelle encore partis politiques, puisqu'ils doivent disparaître. Hein. De plus, c'est annoncé par Monsieur Robert Hue, je vous l'ai déjà dit, donc disparaître. Mais en tout cas, pour le moment, ça tient, ça bricole, ça tient pas encore. Il y a tellement d'avantages, hein, si vous voulez, pour une catégorie sociale, une classe sociale. Le mot social, enfin la classe des bourges, la classe des aristos, la classe des milliardaires, de ceux qui maintiennent leur pouvoir et de tous leurs laquais, qu'il faut se maintenir, évidemment, et puis, évidemment, les classes moyennes autour, qui pensent en avoir quelques miettes, quelques avantages, et qui s'aperçoivent, que ça marche plus comme ça. Alors, ça marche plus comme ça, puisque, je vous le rappelle, plus je vous l'ai déjà rappelé, hein, les animaux malades de la peste, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, il y a beaucoup de choses, achetez-le, hein, si vous pouvez encore le retrouver. Je voulais dire, faire un sort Audio Progrès aussi, un article assez long, pour progrès scientifique, technologique, économique, social, moral, artistique. Alors, ben, évidemment, hein, lesquels il faudrait, justement, puisque ce progrès de la marchandise, ce progrès de la, soi-disant, de l'accaparement de toutes les richesses sur la planète, au profit de certains, d'un petit, et même s'il s'était redistribué, eh bien, nous courons, évidemment, avec donc une catastrophe, puisque vous le savez, développement durable, c'est évidemment une connerie, puisque le développement ne peut pas être durable. On le rappelle, sur une planète où les ressources sont limitées, hein, et puis l'espace, où l'espace est limité, enfin, donc c'est quelque chose d'évidence, mais qui fait que les bonimenteurs, donc les médias, les merdias, sont là pour vous faire penser, pas penser justement, mais dépenser, ou essayer de vous parler d'autre chose. Alors je voulais vous dire donc quelques articles, ben je suis dessus aussi, et l'autre fumisterie, ils avaient bien raison dans la chronique antinucléaire de Stéphane Lhomme, hein, je vous le rappelle, pour Stéphane Lhomme, sortir du nucléaire, eh bien, il rappelle que Linky, vous savez, Gaspard, eh bien, ces nouveaux personnages de bande dessinée, non, c'est les nouveaux compteurs intelligents. Parce que vous aurez un compteur intelligent chez vous, il y en a 30 millions en préparation, si le locataire où le propriétaire n'est pas intelligent, il ira voir son compteur. Et ça sera des compteurs, évidemment, des compteurs mouchards, mais des compteurs qui émettront des ondes, hein, des ondes aussi électromagnétiques un peu cancérigènes, hein, voilà. Et Stéphane Lhomme nous dit, ben, c'est la belle affaire, hein, de l'installation de ces compteurs électriques Linky et ces compteurs Gaspard. C'est prévu, ça coûte des milliards, ça va rapporter à ceux qui voudraient les installer. Pour pouvoir le refuser, c'est très difficile, hein, puisque là encore, ça sera pris au sommet, la décision. Et donc, les gens qui voudront s'y opposer, ben, ne pourront pas. Et encore une fois, pour astreindre, hein, vous savez, toutes les conneries de transformation et d'FNJ, enfin tous les nouveaux noms, la connerie Areva et tout ça. Donc le but d'installer et des mouchards, et qui enregistreront certaines informations à l'insu de votre plein gré. Voilà les projets, hein, dans cette société de plus en plus, évidemment, totalitaire, mais qui vous est vendue, évidemment, c'est le moment de le dire, comme l'idéal absolu républicain et démocratique, hein, puisque tous les prêtres de la démocratie et de la République sont partout pour vous rabâcher donc leur prêche dans tout dans toutes les langues, avec les mots, évidemment, avec les mots du marché, pour vous faire gober toutes leurs conneries. Donc je vous recommande, hein, ce journal La Décroissance, allez le lire, quelquefois il est dans les médiathèques publiques, hein, vous pouvez le lire, et puis avoir un ensemble d'informations qui peuvent avoir, comme celle que je vous ai, lu quelques extraits ou donné quelques extraits, éléments, avoir de l'intérêt, justement, pour un peu voir où nous en sommes. Voilà, vous êtes sur, c'est l'émission Chronique Hebdo jusqu'à midi, numéro du studio 01 43 71 89 40.
Ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est les yeux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu frais. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur coule à plus rien n'est trop beau, car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo. Jusqu'à midi, eh bien, Albert Préjean, hein, c'était les années 30. La crise est finie. Alors, si la crise est finie, donc, vous savez, toutes les crises, hein, parce que nous sommes en crise. On est en crise perpétuelle, depuis le début de la crise. Alors, nous nageons dans le bonheur, hein, je pense, donc, ce que nous dit Albert Préjean. Alors, je vous parlais, je vous l'avais dit, hein, des abattoirs français, un abattoir français, mais enfin, c'est dans tous les abattoirs, à peu près, hein, ça peut se passer comme ça. Là, on rappelait, je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs films, c'est l'association L214, hein, donc, qui a filmé, qui s'arrange pour filmer, mettre des caméras, et puis aussi ils l'ont dit de les projeter, peut-être pas sur le moment, mais à certains moments clés, peut-être plus pour essayer de glisser ça, hein, pour que les gens voient un peu, mais est-ce que ça change quelque chose pour le moment? En tout cas, je vous l'ai dit, il y aura, vous allez me dire, après tout ce que je vous ai dit, l'Assemblée nationale a également créé le 22 mars, hein, c'est le mouvement du 22 mars, à Nanterre, vous savez, Monsieur Cohn-Bendit, une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français. Alors, vous voyez qu'ils pioncent pas les députés, hein. Vous voyez qu'ils servent à quelque chose, hein. Bon, maintenant, après la déchéance de nationalité, 4 mois que ça dure, le psychodrame, entre des sénateurs et des députés que vous avez, enfin pour les députés que vous avez placés là, pour ceux qui ont voté, et pour les sénateurs, vous savez, c'est les grands électeurs, hein, il y a les petits, les petits électeurs, Et il y a les grands électeurs, et donc, et tout ça, ça coûte très cher, hein, évidemment, ils gagnent bien, meilleure maison de retraite, hein, pour le Sénat, et puis pour les députés, donc ils veulent pas lâcher le morceau, et ça sert à quelque chose, puisque une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage. Alors, des animaux de boucherie. Donc là, il y a eu plusieurs, hein, je vous citais le Vigan dans le Gard, hein, après ceux perpétrés à Alès. Et donc là, c'est à petite ville de Moléon-Olichard, hein, les petites villes, vous savez, les petits villages, tout ça, sympathique, dans la Pyrénées-Atlantique, au pays. C'est toujours, de toute façon, c'est les accès, hein, c'est planqué, hein, c'est comme les camps, hein. C'était ça, fait, comparaison, on va dire, comparaison, paraison, enfin tout ça, mais je veux dire, les prisons aussi, c'est planqué, hein. Donc, dans les belles démocratures, toutes les saloperies, eh bien, c'est à l'abri, hein, ils montrent pas trop. Alors, si, de temps en temps, évidemment, on filme, et là-dessus aussi, un autre qui avait dit, vous allez me dire, c'est pas votre modèle, je ne sais pas, quand même, grand cinéaste, aborder des sujets, enfin, des films, comme, Monsieur Godard, intéressant, quand même, bon, et tout ce qu'il a pu dire, bon, de temps en temps, un peu, à côté, contre le showbiz, le cinéma d'industrie, enfin, des réflexions, des choses intéressantes, avait dit, à une époque, si on avait filmé les camps de concentration, enfin bon, les gens auraient peut-être changé, ils auraient peut-être fait quelque chose. Rien n'est moins sûr, hein, puisque les images qui nous arrivent sur toutes les chaînes, par Internet et tout ça, sur la barbarie du monde, sur l'ensemble des boucheries, hein, du monde, quand c'est pas les animaux, bah c'est les individus, mais considérant que faisons partie de l'espèce aussi, donc des bipèdes, Homo erectus ou Homo economicus de plus en plus, donc on voit aussi le sort, hein, quand on voit la Syrie, donc là aussi le désastre le plus évident, hein, je vous dis, où il y a des images, où ce qu'on nous montre et tout ce qu'on nous montre pas, hein, quand les conflits, des conflits terribles aussi en Asie, en Inde, donc au Pakistan, là aussi, selon l'endroit où sont placées les caméras. Donc, de vous montrer ça, ça change pas forcément. Et puis là, de L214, donc, je vous l'avais dit, à une petite association de plusieurs dizaines d'années, qui essaie de réagir et d'agir en montrant la violence et la barbarie, l'ignominie dans les abattoirs. Alors on se doute, hein, comme dit au film de Deligne, que la mort d'animaux d'élevage n'est jamais douce, mais elle est encadrée par le code rural français et un règlement européen de 2009, hein, voyez, que disant que toute douleur, détresse ou souffrance, des bêtes avec une, alors oui, c'est ça, un petit peu de problème technique ce matin, hein, bon, c'est pas facile, mais c'est comme ça, prévoit notamment un étourdissement des bêtes avec une deuxième tentative. C'est formidable, la première a échoué, on ne dit pas une troisième tentative. Alors, bon, pour rire un peu de je veux dire, l'ironie comme subversion, hein, comme disait Baudrillard, l'abattoir de Moléon-Lichard viole plusieurs articles de la réglementation, causant ainsi douleur et souffrance évitables aux ovins. Et le juge vétérinaire auprès des tribunaux, dans un rapport, oui, je crois qu'on entend, remis à L214, il s'appelle Gilbert Mouton, hein, donc ça s'invente pas. Alors, il se dit, bientôt, ça sera peut-être mon tour. Alors bon, on rappelle, là, je voulais vous dire aussi, encore une fois, on retrouve les mêmes conditions pour les salariés, des abattoirs, les cadences infernales de travail. Hein. Il faut tuer 15 000 agneaux en 15 jours pour Pâques. Hein. Alors là, on a tout. Là, on a le capitalisme, les conditions de travail épouvantables, les animaux qui souffrent, et puis la religion hein, qui est encore derrière, hein, pour, qui est amour. Vous le savez bien, pour les animaux, hein, toutes les religions, c'est l'amour. Ben, elles n'ont pas les animaux n'ont pas d'âme. C'est pratique. Hein. Donc, s'ils vont au paradis, donc il y a rien n'a été prévu pour eux. Hein. Bon, voilà, pour eux, donc il faut le dire. Donc c'est plus facile comme ça. Alors à ce moment-là, on peut évidemment les zigouiller. Hein, vous savez toutes les pratiques. On nous dit des pratiques cultuelles. Hein, c'est la tradition. Il faut faire comme ça. Alors donc faire souffrir. Hein, je vous l'ai dit, les égorgements par là parce qu'on pense que la modernité ça avait été les méthodes d'étourdissement ou d'assommer les animaux avant de les trucider et que dans certaines pratiques religieuses, eh bien il faut que l'animal et aussi soit pleinement conscient. Hein. Bon, voilà. Aussi, vous le savez, donc l'amour de toutes ces boutiques religieuses pour les animaux et bien sûr, c'est un entraînement sur les bêtes pour après, évidemment, utiliser les mêmes pratiques sur les bipèdes, sur les êtres humains. Hein. Voilà. Sur les êtres humains. Alors, l'association, qu'est-ce qu'elle dit ? Que les scandales se suivent et se ressemblent. Après les discours rassurants à la suite d'Alès et du Vigan, rien n'a changé dans la pratique, dénonce la porte-parole de L214. Hein, c'est comme la courbe du chômage. Donc, rien n'a changé comme les conditions de survie des gens, de ceux qui sont dans la rue depuis des dizaines d'années. Hein, on parlait sur cette antenne, donc pour les gens qui crevaient dans la rue il y a bien longtemps, les clochards hein, sur de Céleste ou avec Patrick de Clercq, hein, voilà un gros bouquin. Bah oui, mais qu'est-ce qui a changé? Non, au contraire, ça a augmenté. Vous savez que tout augmente, hein, même pour le nombre de repas servis parmi les Restos du Cœur, c'est le restaurant qui marche le plus dynamique, avec des enfoirés, hein, vous savez, qui ne pourraient pas chanter en dehors des concerts des enfoirés pour soutenir les Restos du Cœur, puisqu'ils sont tellement mauvais. Donc là, ils viennent se défouler. Alors je vous parle de ça. Là, c'est dangereux. Hein. Je vis dangereusement parce que je me doutais que les casques ne fonctionnaient pas là. retour du son dans le studio, mais je pense que vous m'entendiez, voilà. Pour cet article, assez long, hein, le mieux, c'est que vous en preniez connaissance. Hein, je vous conseille, je vous dis, hein, dans une médiathèque, lâchez pas forcément le journal Le Monde, le mercredi, le journal aussi qui appartient au trio BNP, entre autres. Hein, mercredi 30 mars, c'est en page 7, et vous verrez hein, l'ensemble de ces informations, et aussi ce qui est dit, enfin encore une fois, le con se surpasse, vous savez que les cons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, un zozo qui est le directeur d'Interbev, Marc Pagès, hein, je dis son nom hein, quand même, savoir, parce que peut-être pour une légion d'honneur, hein. Vous savez, on leur donne, le hollandais, c'est ce qu'il en donne aux crapules. L'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, hein, le directeur, voilà ce qu'il dit. C'est un processus de culpabilisation des citoyens pour les faire arrêter de manger de la viande. Voilà, c'est pour ça les images qu'on leur montre et tout ça. Eh bien, on veut les culpabiliser. Hein. Donc lui, je ne sais pas, pour parler, arrêter de penser, qu'il a arrêté de penser depuis longtemps, certainement. Et donc, là aussi, tous ceux qui essaient, hein, comme je dis, petite association, donc de gens qui font un boulot assez remarquable, L214, eh bien, c'est eux qu'on va encore désigner comme coupables, hein. comme coupables, les salauds. Ils nous montrent des images épouvantables, alors qu'on mangeait, on était peinards hein, pour manger donc notre steak frites, notre entrecôte, notre côte de mouton ou notre agneau pascal. Et voilà, ils vont encore nous gâcher. Alors, regardez la vie qu'on a, hein, voyez autour de nous. Si même plus, dans notre assiette, en allant s'installer, quand on peut, hein, pour certains encore, vous savez, mais même au Resto du Cœur, ils doivent en servir, même plus manger un morceau de bidoche tranquille, eh bien, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Voilà, je vous le disais ce matin, le niveau de réflexion actuel de la société française, un des niveaux, puisqu'il y en a d'autres, hein, vous le savez, mais celui majoritaire, encore une fois, majoritaire, qu'on peut entendre sur l'ensemble des médias. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, et jusqu'à midi, quelques petites minutes tranquilles avec Télénews Manque.
Deux poissons dans mon étang, ça va nageant, ça vit content. Ça se croise par-ci, par-là, un petit salut, un petit ça va. Deux tout jolis mignons poissons qui ont tout plein de place pour s'ébattre. Si bien qu'ils se sont dit, croissons, le lendemain, ils étaient quatre. Il y a quatre poissons dans mon étang, on se voit de loin, mais plus souvent. Dessous les feuilles des nénuphars ou quand on prend le frais le soir. Ma chère, comment allez-vous? Et les enfants, ça viendra vite. Plus tard, ils prendront soin de nous. Le lendemain, ils étaient huit. Il y a huit poissons dans mon étang qui remuent la queue en gigotant. C'est pas encore un club de foot, mais ça fait du monde qui glougloute et qui zigzague joyeux foutoir. Les maigrichons frôlent les balaises que chatouillent les petits rigolards. Le lendemain, ils étaient 16. Il y a 16 poissons dans mon étang qui chassent les mouches et les vers blancs. Ça gobe, ça croque et ça avale. C'est des gloutons, c'est des morphales. On aurait tort de se priver de la graille. Il y en a tant qu'on veut. Il n'y a qu'à se servir, il n'y a qu'à se baffrer. Le lendemain, c'était 32. Sont 512 quelques jours plus tard, commence à y avoir un écart entre quelques rares poissons nantis et la masse des plus petits. C'est la nature et ses lois, disent d'éminents poissons savants. Certains ont des besoins plus grands, d'autres méritent ou d'autres droits. On pourrait penser qu'au moment où il se trouve plus de 1000 dans l'étang, bien qu'ils aient pas inventé l'eau tiède, il se trouve un poisson qui plaide pour qu'on réfléchisse un petit peu. Il y a moins de plancton, moins d'asticots, mais réfléchir, mon bon monsieur, c'est trop demander à ces bestiaux. Lève-la 8000 des poussières dans mon étang et ça se serre, mais sans s'inquiéter pour autant, la poiscaille, ça vit au présent. Changer d'art de vivre, jamais, il n'y a pas d'autre route. Et d'ailleurs, celui qui ne croit pas au progrès, qu'il aille se faire pêcher ailleurs. Combien sont-ils? On ne sait pas. Un tas, une foule, un magma qui remplit quasi tous les temps et qui se dit, et maintenant, eh bien, amis, croissons, croissons, on fait ça depuis la nuit des temps. Il n'y a que ça qui est vrai, il n'y a que ça qui est bon. Hardi, haut les cœurs, en avant. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'étang, rien qu'un gros trou un peu puant, où même les chats ne rôdent plus, ou alors ceux qui se sont perdus. Plus de papillons, plus de roseaux, plus de libellules jouant sur l'eau. Si vous voulez mon opinion, les poissons sont des cons.
Thank you.
Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo jusqu'à midi, reprend. Alors, je vous l'avais dit, les abattoirs, celui du salariat, autre abattoir, pour ça, la condition tripalium, je vous le rappelle, ça vient du mot travail, en ce qui concerne le vocabulaire pour la France, de tripalium, instrument de torture, instrument de torture, et puis aussi, puisque je parlais de l'abattoir, une sorte de maintien, donc d'appareil de contention pour les bœufs, pour l'origine du mot travail. Alors je vous le disais, le chômeur, une catégorie née au 19e siècle, là il y a un article donc de Pierre-Cyril Aucœur, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Enfin, il prêche un peu pour sa paroisse, si l'on peut dire, ou pour son école. En nous disant, je vous l'avais dit au début de l'émission, d'aller faire un tour, du côté des anthropologues, de la psychologie, de la sociologie, on l'a fait un petit peu ce matin, pour essayer de voir ce que ça veut dire, ce que ce vocable du travail, du salarié, du chômeur. Alors la mise en place, le mot, c'est le sociologue, historien encore, un collègue de bureau, Christian Topalov, école des études en sciences sociales, qui à partir d'un ouvrage, un ouvrage qui s'appelle « Naissance du chômeur », qu'il a publié chez Albin Michel en 1994, ça date un peu déjà, vous voyez, l'information, plus de 20 ans, « Naissance du chômeur », de savoir aussi ce que ça veut dire. Alors ce que ça veut dire, la caractéristique des individus à l'encontre de l'interprétation des patrons comme des économistes, c'est d'essayer de comprendre que à partir de la fin du 19e siècle, là aussi, puisque la crise est finie, je vous en avais parlé tout à l'heure avec la chanson d'Albert Préjean, les années 30, pour les pays émergents de l'époque, c'était qui les pays émergents de l'époque? Des pays d'Amérique du Sud et des États-Unis, pays émergents. Donc à l'époque aussi, leur mode de développement a créé des périodes de chômage importantes pour des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises industrielles de l'époque, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et aussi d'artisans ou de travailleurs à domicile, beaucoup plus nombreux que ceux qui travaillaient dans les grandes industries à l'époque, fin du 19e siècle, et des paysans ruinés qui ont à l'époque aussi émigré en ville, par rapport à la situation qui leur était faite. Alors on leur disait, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de moyen de se développer, donc on va être obligé de vous licencier. Donc montrer que les conditions économiques, les conditions de l'époque créaient justement le chômage, et on ne portait pas, puisque ça n'a pas duré très longtemps, la responsabilité n'était pas portée par l'individu ou le travailleur, en lui disant non, il veut pas travailler, il veut pas bosser, c'est lui le responsable de sa situation de chômage, et montrer que à cette époque-là déjà, comme l'époque que nous traversons, c'est l'économie telle qu'elle est dans les sociétés capitalistes, la robotisation, enfin vous le savez tout ça, l'augmentation de la productivité fait que si on était, je vous l'ai déjà dit, au début du XXe siècle, le nombre de paysans en France, rien qu'en France, c'était plus de la moitié de la population du pays. Donc là encore, pour 300 000 actuellement. Alors vous voyez que ces conditions-là obéissent bien plus qu'à des envies de travailler, il veut pas travailler, bien plus qu'à des gens qui n'acceptent pas de bosser, comme on leur demanderait dans n'importe quelle condition, puisque maintenant on les transforme, vous le savez, exploite-toi toi-même en auto-entrepreneur, la nouvelle évidemment escroquerie, une de plus, enfin bon, il y en a un certain nombre, par rapport justement à ce monde du travail. Donc nous parle aussi la création, je voulais vous le redire, du Bureau international du travail, hein, c'est tout de suite après la guerre de 14-18, la première boucherie, hein, je parlais tout à l'heure des boucheries, donc des abattoirs, le grand abattoir donc du début du 20e siècle, des millions, évidemment des millions de morts. Donc, on rappelle, alors, au travers de ces concepts du chômage, comme du salariat de l'époque, hein, donc des gens ont justement essayé de redéfinir les spécialistes, hein, de l'époque, sociologues, aussi, enfin il y en avait moins, mais des économistes, des statisticiens, des juristes et des politiciens, pour voir qu'est-ce que l'on pouvait faire pour changer justement cette façon de la société, enfin cette société du travail qui à l'époque rencontrait de grandes difficultés. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que aussi on met plus l'accent, c'est ce que veut nous rappeler donc Monsieur Hawker dans son article par rapport à notre époque, c'est que pour pouvoir changer radicalement la condition même du travail, hein, puisqu'on parle de cette loi travail, Trépalium, enfin bon, la loi Belconry, donc la possibilité de changer complètement les approches sur en allant voir justement du côté de la sociologie, de l'anthropologie, et comprendre les évolutions importantes dans la condition même des travailleurs par rapport, je vous le disais tout à l'heure, à la modernisation des technologies, des nouvelles techniques de travail, la robotisation, tout ce qui se met en place, et puis aussi la situation des pays en concurrence par rapport à d'autres pays, quand on parle de la Chine, comme atelier du monde. Alors l'intérêt, évidemment, c'est de faire plus qu'une transformation, mais une véritable révolution politique et sociale pour réinterpréter toutes les données, hein, toutes les données que l'on définit comme Pôle emploi, comme statistiques autour du chômage, comme précarité ou comme personne dite chômeur, de transformer évidemment ces notions-là, puisqu'elles sont en correspondance avec les périodes du fin du 19e siècle ou du 20e siècle, de la même manière que les syndicats ont une approche passéiste d'analyse justement des modes de production. Alors là aussi, dans cet article, un point important souvent développé dans cette émission, on parle de l'absence de sens, hein, que les gens voient souvent au travers de leur travail, qu'ils n'ont plus, ou aussi tout ce que l'on fait pour que l'individu soit celui, comme on appelle, la centralité du travail, que occupe toute la vie de l'individu, et de faire des catégories, évidemment, de travailleurs, des gens que l'on définit en fonction d'un travail, hein, en disant ben, vous êtes ouvrier, évidemment employé, paysan, agriculteur, enfin paysan pas exactement, mais les professions intermédiaires, les cadres, les professions libérales, hein, je vous parlais, ou les professions avec forte valeur ajoutée par les grandes écoles ou par les facultés, donc tout ça est complètement à repenser pour justement faire que l'individu, que la personne soit autre chose qu'un élément de travail de la société de travail ou de non-travail de la société capitaliste, mais qu'il existe par lui-même et qu'il est justement une ouverture sur tout un tas de possibilités de réaliser, de se réaliser en dehors du travail. Alors, c'est ces confrontations dans lesquelles nous sommes actuellement par rapport à ce temps de travail, hein, évidemment, qui est important, que certains ont voulu encore augmenter, hein, voudraient encore augmenter. Donc, tous ceux qui sont chargés de trouver, vous en doutez bien, des solutions, comme j'ai entendu Monsieur Rebsamen, hein, vous le savez, ancien, le prédécesseur de Madame El Khomri, là encore, qui disait, ça n'apportera rien, hein, ça n'apportera rien, ça ne fera pas, donc un grand ami du Hollandais, ça ne changera rien dans les statistiques par rapport à l'inversion, enfin l'inversion, simplement une amélioration, si c'est possible, de la courbe du chômage. Et encore une fois, disant ça, courbe du chômage, ou courbe du travail, ou courbe du plein emploi, on se situe évidemment dans les mêmes analyses que pour des périodes précédentes où les conditions, même techniques, scientifiques, enfin bon, de la production, se sont complètement transformées. Et c'est ça, dans ces modèles-là. Alors vous me direz, là aussi, s'il faut transformer radicalement la société du travail telle qu'il est, hein, ce qu'on lui donne, le sens que l'on peut lui donner et l'importance qu'on peut lui donner, là aussi, dans tous les domaines de la politique, évidemment, la transformation radicale de nos sociétés, hein, pas simplement changer de la République 5 à la République 6 avec le maillot 6, mais transformer radicalement nos sociétés de sociétés verticales, hein, je vous en parlais au début de cette émission, à des sociétés évidemment horizontales où chacun d'entre nous aurait une part de responsabilité et on prendrait réellement en compte le fait même qu'il participe aux choses publiques, qu'il participe évidemment à la réalisation de cette nouvelle société et qu'il est, en dehors du fait d'aller travailler ou d'aller voter une fois de temps en temps, une véritable responsabilité dans la société, pas de faire des citoyens, comme je dis, des assistés, des gens qui sont là à attendre un sauveur suprême, évidemment, qui n'arrivera pas ou à se plonger, évidemment, s'il est déçu d'une forme de politique dans une nouvelle religion, hein, pour dire on peut rien pour vous, hein, sur la planète, on peut rien pour vous dans cette vie-là, au moins vous aurez l'au-delà, vous aurez le paradis, hein, pour vous y retrouver. Alors, pour éviter évidemment tout ça, tous ces risques de faire de chacun des membres d'une société, justement, des gens un peu démunis, un peu hébétés, un peu ne sachant plus où aller, eh bien, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ces changements absolument indispensables qui sont à mettre en œuvre et en s'inspirant, vous le savez bien, puisque vous êtes sur Radio Libertaire, des propositions anarchistes dans le domaine justement de la réorganisation radicale de la société en ce qui concerne évidemment la politique, mais aussi dans la façon d'être producteur, si l'on peut dire, ou d'être travailleur, ou d'être actif, ou de participer, donc à avoir à l'ensemble de la marche d'une société complètement déboussolée, vous le voyez bien en ce moment, c'est ce qu'on a justement essayé d'aborder par des différents sujets ce matin. Voilà. Donc, Chronique Hebdo, eh bien, je vois que c'est midi. Je vous le rappelle, la manifestation en ce qui concerne l'Île-de-France, la région parisienne, à Paris, donc Place d'Italie, donc jusqu'à Nation, le maximum de gens, comme disait ce président de l'UNEF ce matin sur une radio, une radio du travail. Eh bien, venez dans la rue, c'est dans la rue que ça se passe, et restez peut-être plus longtemps ou essayez de faire rester plus longtemps pour faire d'autres propositions, comme nous le recommandait. Donc, différentes personnes dont je vous ai parlé ce matin pour pouvoir, c'est dans la rue que ça se passe, hein, je vous l'ai dit, essayer que de réjouir, hein, puisque c'était ce président de l'UNEF qui l'évoquait ce matin, qu'il soit plus réjoui ce soir en disant, ben vraiment, des centaines de milliers, sinon des millions de gens sont venus dans la rue. Voilà, vous êtes, ils sont restés, et nous ont proposé autre chose, hein. Il y a beaucoup de travail, comme dirait El Khomri. Voilà, il y a du travail, hein. Il y a du travail. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio du travail. Et c'est la fin d'émission Chronique Hebdo, alors peut-être après la suite, vous savez, de Rimes et de Notes avec Marlène et ses invités. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut !